Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Si pour devenir plus fort et plus endurant, il suffisait de revenir à la base de ce que faisaient nos ancêtres. Allez, c'est parti pour l'entraînement paléo. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport, de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir, devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous avais raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et aujourd'hui, une question intéressante. Comment rouler, courir, nager plus vite, plus loin, devenir plus résistant, mieux gérer la fatigue et donc devenir ces champions et champions du monde de notre monde, mais aussi des vieillards galopants. Faut-il forcément prendre des pilules miracles? Faut-il utiliser des machines de plus en plus complexes ou finalement, sommes-nous déjà faits pour ça? Bah oui, c'est la vraie question. Depuis que j'ai repris le sport, j'ai lu des dizaines d'ouvrages sur l'entraînement, la santé, la nutrition. J'ai reçu des dizaines d'invités, ils nous ont parlé d'endurance, d'entraînement, mais aussi de renforcement musculaire. Un truc que nous savons tous que nous devons faire, mais combien sommes-nous réellement à le faire? Car avouons-le, c'est pas très fun. Et puis j'ai souvent lu que nos ancêtres étaient de bons athlètes, qu'ils étaient forts, robustes, endurants, et que les tribus de chasseurs-cueilleurs qui existent encore ont des capacités qui nous étonnent toujours. Après tout, combien de fois avons-nous parlé des capacités d'endurance incroyables des Tarahumaras qui courent toute la journée en sandales? C'est pour ça que j'ai convié le docteur Fabrice Kuhn, finisher des championnats du monde Ironman à Hawaï et qui a aussi été le médecin d'équipe de France d'haltérophilie pendant plusieurs années, à venir parler de sa méthode. Sa méthode, c'est l'approche d'entraînement qui est à la fois ludique et performante, le paléofit. Après avoir épluché des centaines d'études scientifiques sur l'évolution humaine, il a reconstitué les types d'efforts pour lesquels nous sommes faits et les adapter à notre monde moderne. Son livre Paléofit m'avait amené il y a quelques années à intégrer des exercices de renforcement simples dans mon quotidien. Ma fameuse pré-préparation marathon de la première saison du podcast était ainsi très paléo dans son approche, je m'en rends compte maintenant. Je profite de la mise à jour de son livre pour inviter Fabrice. Ensemble, nous allons parler de nos ancêtres qui devaient marcher, courir, porter, soulever des choses par nécessité parce qu'il n'y avait pas de voiture, pas de supermarché. Nous allons parler de l'endurance, des allures adoptées, des exercices pour nous renforcer, des bonnes pratiques à intégrer. Si vous trouvez que courir autour d'une piste est un peu ennuyeux, vous aurez aussi des techniques pour avoir une approche plus ludique car comme Fabrice le confie, lui non plus n'est pas un très grand fan du renforcement musculaire. Et pourtant, sa méthode pourrait vous aider à le faire. Et moi, ça va m'aider aussi dans mes objectifs de recomposition corporelle et pour mieux rouler, pour mieux pédaler, pour mieux nager un jour. Allez savoir. Allez, c'est parti. Bonjour Fabrice.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va. Et toi?
Ça va, écoute, bon, on parlait de la pluie, du beau temps, de la météo. Alors, on est fin janvier, il caille un peu, c'est un peu humide. C'est un temps à sortir bien couvert, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est pas le temps pour moi le plus agréable. Je sais que certains aiment, mais bon, je préfère un peu la chaleur.
Alors, tu vois, et je vais faire un lien directement avec le sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler du paléofit, de ton livre, de la nouvelle édition et tout. Mais est-ce que dans l'esprit paléo, courir comme ça l'hiver quand il fait froid et tout, c'est très paléo?
Le paléo s'exerce tout le temps. De toute façon, il n'a pas le choix parce qu'à l'origine, il fallait bien s'exercer quasiment tous les jours pour trouver de la nourriture. Donc finalement, on n'a pas le choix. Simplement, il y a des adaptations.
Ouais, moi, je crois que les anciens, ils vivaient dans des zones un peu plus chaudes, tu vois.
Il y en avait un peu partout dans le monde, finalement. Enfin, peut-être pas partout dans le monde. Mais il y avait aussi des hommes de Néandertal près de chez nous. Il y avait des Homo sapiens là où on est et qui vivaient il y a bien longtemps et qui vivaient dans un endroit où il a fait parfois froid. Donc, non, je pense que c'est adapté à tous. Alors, si effectivement, on a quand même d'ailleurs des adaptations qui nous permettent de nous acclimater au froid et à la chaleur. Deux, on a les deux composantes.
Et ça fait partie de choses à travailler, cette adaptation, dans ton programme, tu en parles, dans ton livre, pas dans ton programme, dans ton livre, tu parles de cette histoire de la composante de la chaleur et tout, de l'adaptation justement de notre corps à cette chaleur, mais aussi à l'humidité finalement, comment on a cet équilibre qu'on doit gérer nous.
Alors oui, je parle de l'adaptation, de l'acclimatation à la chaleur en fait, parce que tu as deux phases. Tu as l'adaptation, c'est je m'adapte en temps réel, c'est je vais mettre un t-shirt plus léger, c'est je vais mettre un short, c'est je vais mettre une casquette, c'est que je vais me mouiller un peu, c'est je vais boire un peu plus. Ça, c'est l'adaptation à la chaleur. Et tu as l'acclimatation à la chaleur qui finalement est un petit peu plus intime, un petit peu plus profonde. C'est ton organisme qui apprend à mieux transpirer, c'est-à-dire à moins bien transpirer. C'est ton organisme qui apprend à être un buveur à retard, parce qu'on est, nous sommes des buveurs à retard, c'est qu'on est capable de s'exercer avec un peu de déshydratation et de boire plus tard. Donc tout ça fait que oui, c'est on est capable de gérer cette chaleur. Et moi, je l'exploite, oui, parce que on se rend compte que finalement, il y a des adaptations croisées, certaines adaptations que tu acquiers en faisant des choses comme ça, par exemple les adaptations à la chaleur, te permettre d'être plus efficace et plus performant quand tu es sur en température ambiante neutre, on va dire. Donc oui, c'est quelque chose à exploiter.
Alors tiens, tu peux nous en dire plus, parce que alors là, ça m'intéresse. Comment ce que tu fais en chaleur t'aide à être plus performant en température normale, enfin neutre?
Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es sportif, tu es naturellement plus acclimaté à la chaleur qu'un sédentaire. Parce que quand tu fais des efforts, en permanence, tu vas augmenter la température de ton organisme et ton organisme va apprendre à gérer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, quand tu brûles des calories pour avancer, si tu veux courir, 75% des calories que tu vas brûler vont être dispersées sous forme de chaleur et seulement 25% va te faire avancer. Et en fait, ces 75% perdus font que tu transpires même quand il fait froid, parce que le seul moyen d'évacuer la chaleur, c'est la transpiration. Donc, en quoi ça t'améliore de devenir plus acclimaté à la chaleur? Bah, quand tu vas faire un semi-marathon, par exemple, ou un marathon ou un trail, ta température corporelle va monter naturellement et peut devenir un facteur limitant. Si tu apprends avec l'acclimatation à mieux transpirer, donc tu vas transpirer avec un seuil de transpiration plus bas, donc tu transpires plus tôt.
D'accord.
Donc, comme tu transpires plus tôt, ton corps va moins monter en chaleur et donc tu vas avoir moins ce facteur limitant. Deuxième adaptation, c'est que tu vas augmenter ton volume sanguin, ton volume plasmatique, ce qui fait que tu vas avoir un peu plus de capacité à te déshydrater. Et ce qui en plus augmente ta VO2 max, puisque tu as plus de volume sanguin circulant. Ensuite, tu vas avoir des adaptations qui vont faire que tu vas tolérer mieux la chaleur. Or, la pénibilité de l'effort est un facteur limitant de la performance. Mais ta transpiration, tu vas aussi, quand tu vas, ta transpiration va être de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'elle va être moins chargée en minéraux.
D'accord.
Donc, en fait, tu vas transpirer mieux, plus efficacement pour éliminer plus vite la chaleur. Tu vas transpirer mieux parce que tu vas perdre moins de minéraux. Et tout ça fait que, bah, finalement, comme dans un effort naturellement, dans des conditions naturelles, on va dire autour de 15-20 degrés, tu vas naturellement transpirer, ben là, tu vas freiner ça et ça te permet d'améliorer tes performances en ambiance thermique neutre. Ce qu'on appelle des adaptations croisées.
D'accord, c'est très intéressant. D'ailleurs, en plus, il y a un sujet qui est, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, c'est à quel point l'homme, les humains que nous sommes, la transpiration, c'est peut-être ce qui nous avantage presque sur tous les autres animaux qui ont essayé de nous croquer à l'époque paléo, là. C'est que nous, on était capable de gérer notre transpiration, de réguler notre température, ce qui n'est pas capable de faire, par exemple, un guépard, qui, je crois qu'il explose, il court vite pendant quelques secondes.
Tout à fait. On fait partie des rares animaux à être capable de transpirer abondamment. Et c'est notre polyvalence, c'est notre capacité. En fait, ça entre dans notre capacité d'endurance dont très peu d'animaux sont capables de rivaliser. En fait, c'est une de nos spécificités et la transpiration abondante en fait partie.
C'est intéressant parce que justement on se rend compte que finalement on n'était pas excellent dans plein de trucs par rapport à d'autres animaux pour revenir à l'époque paléo, parce que moi pour moi dans paléo c'est on risque de se faire bouffer par quelqu'un, mais il faut aussi qu'on aille chercher à manger mais finalement on a des capacités qui nous permettent d'avoir des avantages et on le voit parce que alors ceux qui sont intéressés, qu'on lui borne tout run notamment, mais dans ton livre aussi tu en parles, les chasseurs-cueilleurs, l'avantage du chasseur-cueilleur c'est que la capacité à faire des efforts de longue durée que n'ont pas d'ailleurs des autres animaux et tout, et qui permettait justement de dire on est capable de faire des grands déplacements et puis fatiguer les animaux qu'on visait, qu'on avait envie de manger.
Tout à fait, c'est notre spécificité, c'est là où on est supérieur aux autres animaux. Avec une autre chose sur laquelle on est aussi particulièrement efficace, c'est la polyvalence. Mmh. On est aussi polyvalent, on est quand même capable de sprinter, même si c'est moins rapide. On est quand même capable de soulever, même si on est moins fort qu'un chimpanzé ou qu'un gorille. Mais notre spécificité, là où on domine vraiment, c'est l'endurance. Mais ça, c'est grâce à toutes ces adaptations à la fois mécanique avec dont tu parles dans Born to Run, qui sont abondamment décrits par Daniel Lieberman, qui sont nos tendons d'Achille long, notre arche du pied, notre rectitude, notre gros fessier, notre capacité à tenir la tête droite, même le fait d'être sur deux pattes. Parce que du coup, on est au-dessus de la savane et puis du coup, on est rafraîchi par l'air, ce qui nous permet de gérer plus facilement notre endurance. Mais oui, l'endurance, c'est notre spécificité. Les animaux ne peuvent pas rivaliser avec nous.
J'allais dire aussi qu'on a une autre spécificité, c'est d'être capable de s'organiser en groupe. Mais dans le sport, il y a plein de sports où finalement ça ne nous sert pas à grand chose. En tout cas, dans les sports d'endurance que l'on fait, parce que bon, en triathlon, t'as pas le droit de t'aider de tes camarades ou je sais pas où c'en est, des règles de peloton et compagnie. Mais ça fait partie aussi des éléments qu'on avait, de se dire on est capable de s'organiser en groupe, de gérer des choses, etc. Est-ce que dans le sport, c'est un truc qu'on utilise moins finalement, ça?
Si, comme tu dis, il y a des sports où c'est très utilisé, mais même dans les sports individuels, tu l'utilises parce que tu vas t'entraîner avec tes amis, tu vas t'entraîner avec du monde. Alors dans le triathlon, effectivement, sur le longue distance, tu n'as pas le droit au drafting, donc tu n'as pas le droit de te mettre dans la roue de ton prédécesseur. Mais il y a plein d'animaux qui sont capables de ça aussi, donc c'est pas une spécificité que l'on a. Par contre, on peut après d'en s'en servir, quoi. Aller s'entraîner avec les amis, aller profiter de leur expérience, profiter de leur enseignement.
Ouais, et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs, c'est que alors faut des fois se méfier des conseils parce que bon, toi t'es super calé, toi t'as un bon niveau, mais quand on débute, comme moi c'était le cas, des fois on a plein de conseils qu'on reçoit en disant tiens, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, tu verras, t'as des meilleures chances, etc. Des fois il y a quand même du double tranchant dans les conseils des anciens qu'on peut, enfin moi j'appelle ça des anciens, mais en tout cas qui souvent, tu sais, c'est les petits conseils. Et je le dis parce que ça me fait toujours penser, j'ai une question il y a pas longtemps d'une membre de la communauté qui me disait, elle a des, tu sais, c'est les anciens coureurs, mais tu sais qui sont un peu dragueurs, un peu sur le côté aussi, tu sais, qui dit ah mais tu sais, toi la petite jeune, tu devrais faire ça, etc. Tu sais, comment on fait le tri des conseils qu'on nous donne? Tiens, tu vois, ça c'est un vrai truc parce qu'il y a des livres qui sont très intéressants comme les tiens. Donc mais après, on entend plein de conseils, tu vois, sur les trucs, même sur l'histoire du paléo. Moi, je suis sûr que les gens, ils ont tous en tête, en paléo, on faisait ça, etc. Toi, qui as une grande expérience, comment on fait? On fait le tri des conseils et comment finalement on les intègre?
Alors, les conseils, il y en a effectivement, je suis d'accord avec toi, des très bons. On commence tous par suivre des conseils plus ou moins éclairés.
Ouais.
C'est la base. Alors moi, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup d'études scientifiques. Mm. En fait, et la façon dont je m'entraîne, la façon dont je mange, la façon dont je partage, la façon dont j'explique, c'est toujours un peu le même schéma. C'est je lis, donc je lis la science, je regarde les publications scientifiques. J'ai passé encore quelques heures hier. J'y réfléchis, je les teste de mon côté, et une fois que ça me convient, que ça me convainc, je l'explique. Donc ça, c'est ma démarche. Mais effectivement, ça demande de savoir où chercher, ça demande de savoir lire en anglais, parce que toutes ces publications sont publiées en anglais. Et puis, ça demande d'aller plus loin. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit mon livre sur l'entraînement à glycogène bas. C'est comme ça que j'ai écrit PaléoFit. C'est des choses que j'ai testées. Alors, il y a des choses que j'ai testées avant et que j'ai été améliorées en lisant la science. Des choses que j'avais testées de mon côté sans avoir la science et puis que j'ai améliorées par la science. Et il y a des choses que j'ai été chercher dans la science et que j'ai exploitées après pour moi en modifiant un petit peu.
D'ailleurs, alors, d'où vient le concept de paléofit? C'est-à-dire qu'à quel moment tu te dis, tiens, il y a des choses qui se faisaient, on parle de combien de milliers d'années là?
Plus de 10 000 ans.
Combien?
Plus de 10 000 ans.
Plus de 10 000 ans. Bon, là, il y a plus de 10 000 ans, ils n'avaient pas de salle de sport. Et pourtant, tu te dis, ils avaient quand même un super entraînement. Et d'ailleurs, avant d'aller dire sur l'entraînement qu'ils avaient, enfin, qui n'était pas un entraînement pour eux, hein, pour, enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'ils avaient des entraînements, ça serait un bon truc. Quel niveau d'athlète c'était? Est-ce qu'on pourrait comparer par rapport à ce qu'ils étaient et ce que nous sommes nous, en fait?
Alors, oui, on peut pas comparer ce qu'ils étaient parce qu'on n'en a pas la notion, mais ce qu'on peut comparer, c'est par rapport aux dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui restaient. Et on se rend compte que ce sont des bons athlètes, mais ce ne sont pas des athlètes de très haut niveau. Mmh. La différence se fait qu'ils sont, bons, hein, ils sont peut-être de mon niveau, on va dire, mais pas des très bons. La différence, c'est que ils n'ont pas d'entraînement volontaire. Ils ne vont pas aller se faire une sortie longue de 22 km pour s'améliorer. Ils ne vont pas aller faire du fractionné en faisant des séries de 400 mètres pour s'améliorer. Donc, ils n'ont pas cette capacité d'aller repousser systématiquement. Par contre, comme ils s'entraînent tout le temps, ils sont bons. Autre chose, c'est que finalement, ils n'avaient pas autant de nourriture que nous, on a. Et ils n'avaient pas autant de glucides que nous, on a, pour soutenir des efforts intenses. Et probablement qu'ils n'avaient pas suffisamment de glucides pour soutenir une série de 20 x 400 ou une sortie longue systématiquement, ce qui fait qu'ils n'étaient pas capables de développer ces capacités. Mais par contre, ce sont quand même d'excellents athlètes sans entraînement, sans entraînement dédié, mais avec un entraînement inconscient permanent.
Ouais, j'ai retrouvé d'ailleurs un élément que tu disais, hein, c'est que les chasseurs africains pouvaient parcourir entre 17 et 35 km. Entre 3h30 et 6h pour chasser, quoi.
Ouais, c'est la chasse à l'épuisement. Alors, chasse à l'épuisement, c'est donc exploiter en fait toutes nos capacités. Ce sont des athlètes, des chasseurs qui vont partir en endurance, une course légère. Notez que c'est une course légère, c'est pas autour des pistes, hein, parce que c'est dans la savane avec des herbes hautes, des cailloux, des conditions difficiles. Et ils sont capables, en pleine chaleur, ils partent le midi, en pleine chaleur. Donc, pour profiter de cette chaleur que nous sommes capables de gérer et les animaux moins, ils chassent un animal, souvent un gros animal, qui lui ne sait pas gérer cette chaleur, qui ne sait pas courir en endurance, il a peur de l'humain, il va partir en sprintant, forcément il va chauffer vite, donc il est obligé de s'arrêter vite à l'ombre d'un arbre s'il en trouve un. Mais les chasseurs arrivent en endurance, le suivent, et là il resprint, les chasseurs le poursuivent, et on continue comme ça en pleine chaleur. Au bout d'un moment, l'animal ne peut plus supporter d'avoir sprinté en permanence comme toi à la fin d'une séance de fractionné intense. Et finalement, n'arrive plus à fuir. Et c'est là que le chasseur arrive et peut tuer l'animal pour le manger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chasse et l'épuisement. Il y en a quelques-unes qui ont été filmées. Il y en a une sur une vidéo de la BBC. Faut savoir qu'il ne réussissait pas à chaque coup. Mais ils exploitent les capacités à gérer la chaleur, les capacités intellectuelles à traquer un animal, les capacités à courir en endurance, les capacités à être un buveur à retard. Et ils exploitent toutes nos capacités qui ont fait qu'on a pu sortir du lot et finalement sortir de cette époque pour que l'espèce humaine survive.
Oui, et puis parfois, peut-être, ils faisaient des sprints. Alors, on peut penser à un sprint si l'animal se retourne contre eux. Bon, on essaie de fuir, mais peut-être des sprints aussi pour dire, là, c'est le moment, tout le monde va lui sauter dessus. Enfin, il y a un truc comme ça, non? Il doit y avoir des pics d'intensité aussi, j'imagine.
Tout à fait, la fin de la chasse, probablement comme ça. Et là, on parle de la chasse épuisante. Il y avait d'autres types de chasse où il fallait être un petit peu plus rapide des fois. Oui, donc de toute façon, ils sprintaient en permanence. Mais d'ailleurs, c'est ancré dans nos gènes. Hein. Quand tu vois les gamins courir, ils sprintent.
Ouais, ce que j'allais te dire. Ma fille ne connaît pas la zone intermédiaire, en fait. Elle connaît le truc arrêt, le truc à fond, mais elle ne connaît pas la zone intermédiaire, elle.
Voilà, les gamins, ils passent leur journée, quand on les met dans la cour de récréation et que tu ne les bloques pas, ils passent leur journée à courir, à sprinter, et jusqu'à l'adolescence où ils font autre chose. Mais...
l'adolescence, ils ralentissent.
Voilà.
Mais alors justement, tu vois, on parlait de l'enfance, ça m'intéresse cette histoire parce qu'on dit, bon, ils n'avaient pas vraiment d'entraînement. Bon, c'est sûr, ils n'avaient pas de salle d'entraînement, de programme d'entraînement, etc. Mais est-ce qu'ils avaient il y avait bien une forme d'entraînement quand même qui venait, j'imagine, de ce qu'on en sait, il devait bien avoir les jeux. Parce que dans Bantouron, on parle des jeux des gamins quand ils lançaient le truc là dans le truc, la balle qui descend là. Ces formes d'entraînement, elles devaient bien exister quand même. De dire, alors, on les entraîne à faire quelque chose, enfin à courir déjà.
Oui, alors il y a un entraînement, c'est pas ce que nous on appelle l'entraînement, mais il y a un entraînement permanent parce qu'il y a une activité physique permanente. Ils partaient chasser, ils accompagnaient leurs parents lors de la chasse ou lors de la cueillette, donc ils participaient, donc ça c'est un entraînement. Il y a les jeux qui sont un entraînement. Finalement, il y a aussi même les jeux pour adultes, hein, parce que finalement, quand tu te réunissais en fin de journée pour danser, c'est aussi un entraînement. La construction des habitats, le portage des carcasses, le portage, l'arrachage des légumes, enfin, tout ça, c'est un entraînement finalement. C'est un entraînement très varié, très polyvalent. C'est pas consciemment dédié à améliorer les performances, et en ce sens-là, c'est pas un entraînement, mais c'est quoique, c'est si on leur apprend à cueillir, c'est aussi pour qu'ils sachent le faire ultérieurement. Donc, il y a quand même cette notion de je vais progresser, je vais apprendre à le faire.
Et un truc dont je me suis fait là, en regardant à nouveau ton livre, et puis en pensant un petit peu à leur vie, puis tout à l'heure on marchait, on passait dans des jardins, et je me suis dit, moi j'ai du mal à me baisser, à m'accroupir. Si je devais faire mon jardin là, tu vois, aujourd'hui, je serais quand même super embêté. Et planter des trucs et tout, parce que tu sais, avec les mal de dos, je me suis rendu compte à quel point j'ai perdu ma souplesse aussi, tu sais, d'être en squat bas, etc. Tous ces trucs-là. Et je me dis aussi, il devait avoir, alors, je sais pas si c'est de la souplesse ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de la mobilité pour faire tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire de, à la fois soulever des trucs qui peuvent être lourds, traîner des choses, cueillir, ramasser des choses, etc.
Alors déjà, s'exercer améliore naturellement la souplesse. Le problème dans notre société, c'est que finalement, on passe des heures assis avec des rétractions musculaires. Y a des mouvements qu'on ne veut plus faire, qu'on ne fait plus. Effectivement, passer une demi-heure accroupi, c'est compliqué pour nous. Mais finalement, quand tu regardes dans des tribus africaines ou même asiatiques, ils passent des heures et des heures accroupis sans problème. C'est simplement que nous, on a délaissé, mais en fait, c'est finalement une bonne partie de nos pathologies à l'heure actuelle, c'est qu'on délaisse notre organisme, c'est qu'on délaisse des fonctions, et toute fonction délaissée périclite. Quand tu immobilises ton bras parce que tu as une fracture du bras, tu vas voir que ta fonction musculaire, elle est abaissée, tu vas voir que tu as moins de force, tu vas voir que tu as moins de souplesse dans le bras et qu'il va te falloir faire de la rééducation pour retrouver ça. Et en fait, toute notre activité, c'est, enfin, pas tous, mais une bonne partie de nos contemporains, leur problème, c'est justement qu'ils délaissent leurs fonctions. Ils délaissent leurs fonctions parce qu'ils ne s'entraînent pas. Donc finalement, leur cœur, leurs poumons en souffrent. C'est a priori pas trop le cas de tes auditeurs.
Non, nous, non, on bouge, on essaie de bouger en tout cas.
Voilà. Mais par contre, même si tu essaies de bouger, il y a le syndrome du sportif sédentaire. Donc
Oui.
si tu passes ta journée assis à un bureau, eh ben, tu vas créer des désadaptations qui finalement vont altérer ta santé et que même en allant courir le soir, tu ne vas pas réussir à annihiler totalement. Et en fait, toute notre histoire actuelle, tous nos problèmes actuels, c'est vraiment des pathologies de désadaptation. C'est comme la chaleur. On en revient à la chaleur. L'été, surtout ne sortez pas. L'été, surtout ne laissez pas les gamins courir quand il fait 30 degrés. Si on les avait acclimatés à la chaleur dès le début du printemps, on les avait laissés avec le printemps courir quand il fait chaud, ne pas avoir de clim excessive, ne pas se surprotéger de la chaleur. Quand rien arrive l'été, tout le monde est adapté à la chaleur. Et donc, tout ça, c'est que par souci de confort extrême, eh ben on désadapte notre organisme à ce pour quoi il est fait et on perd toute notre santé. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent en nutrition et en entraînement. Ce qui m'intéresse finalement, ce n'est pas le comptage des calories, ce n'est pas le comptage des kilomètres. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre l'organisme fonctionnel. Et qui dit organisme fonctionnel dit que tu vas avoir un organisme en meilleure santé. Et c'est pour ça que l'entraînement améliore ta santé. C'est parce que finalement, l'entraînement rend ton organisme plus fonctionnel. Et qui dit plus fonctionnel, dit que toutes les fonctions de ton organisme vont fonctionner comme il faut et ton organisme est en pleine santé.
Et ce que je trouve intéressant dans l'approche, c'est que, et tu faisais le parallèle avec l'alimentation, et tu vois, moi je le vois un peu dans l'alimentation où on dit, tiens, il faut prendre des protéines en poudre, tiens, tu mecs sur les protéines, et où on aurait tendance dans certains entraînements à ne travailler qu'une filière d'entraînement ou qu'un truc, ou dire, je vais faire que de la muscu, ou je vais faire que de l'endurance, ou je vais faire que ça, alors que ton approche, En fait, c'est de travailler sur l'ensemble du corps.
Oui, bien sûr. T'es pas juste un bras.
Bon, juste un bras, ça serait
juste
un peu gênant,
voix.
Mais...
juste une voix, en l'occurrence.
Ouais. Mais je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est de considérer que si, à l'époque paléo, c'était des athlètes finalement complets, j'ai envie de dire, hein, qui étaient capables de courir, marcher, tirer, pousser, tirer tout ce qu'on... Enfin, faire la plupart des choses qu'on est faites pour faire. Ton entraînement, en fait, reprend ces grands principes de dire, on va pas se contenter de faire une seule chose, une seule type d'activité, on va faire l'ensemble des activités.
Tout à fait. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai conçu le livre initialement. En fait, pour revenir à ta question de tout à l'heure, comment j'ai imaginé le livre, c'est que j'ai assisté à une conférence à l'INSEP où un chercheur sur le sport parlait et racontait que, à son idée, finalement, il fallait que les sportifs d'endurance s'entraînent comme des chasseurs-cueilleurs. Pourquoi ? Parce qu'on a la même répartition des endurances, donc d'où polyvalence, des intensités d'effort, je veux dire, donc d'où polyvalence, des sprints, de la vitesse, de l'endurance. Il faut ajouter de la force. On sait maintenant que tous les sportifs d'endurance de haut niveau font de la musculation, ou quasiment tous. Quand tu suis un peu les posts Facebook, Instagram et compagnie, tu les vois souvent faire de la musculation. Ils n'en parlent pas trop parce que c'est un peu moins... joli que de voir quelqu'un aller courir dans la nature.
Ah, c'est moins beau que de voir les voir courir à toute vitesse à 21 km/h, ça c'est sûr. Mais enfin, j'ai vu Kipchoge, j'ai vu des photos, des vidéos, on le voit faire de la musculation, on le voit danser, on le voit faire... qu'est-ce qu'on voit faire ? On voit le faire ménage aussi d'ailleurs. C'est une partie d'entraînement d'ailleurs, hein, de se baisser comme ça, mais on le voit faire tout un tas de choses, du vélo aussi d'ailleurs, j'ai vu, on le voit lire beaucoup aussi d'ailleurs. Alors ça, à l'époque paléo, la lecture c'était pas un truc, mais effectivement, on le voit, ils le disent peut-être moins, c'est peut-être moins joli, mais en tout cas, ils le font.
Tout à fait, tout à fait. Et donc finalement, l'entraînement, c'est toute cette globalité, qui te permet de progresser de façon uniforme et pas de progresser d'un côté et au risque d'avoir une défaillance d'un autre côté. C'est dommage. Si par exemple, si on reprend encore la chaleur, si tu fais un entraînement pour quelqu'un qui doit aller faire le marathon des Jeux Olympiques, comme c'était au Japon par exemple, ou à Rio, et que tu le fais s'entraîner, mais pas à la chaleur, bah, tu as loupé une étape. Et finalement, un athlète se doit d'être polyvalent et se doit d'être capable de réagir à toutes les circonstances s'il veut performer. Donc voilà, il faut envisager dans la globalité. Autre avantage, finalement, c'est que c'est plus marrant. De mettre un peu de polyvalence dans tes entraînements, de varier les entraînements. Si tu fais toujours le même 10 km autour de la maison, c'est un peu casse-pied. Ouais. Donc, c'est aussi ça. Mais voilà, il ne faut pas délaisser un côté parce que sinon, tu risques d'avoir une fragilité.
Mais tu vois, après, j'allais te dire un truc. Et c'est un peu provocateur ma question, mais en plus, je crois que tu l'as abordé dans le livre. On pourrait faire du crossfit, en fait. Ou est-ce que le crossfit, finalement, c'est une forme paléo avec de l'haltérophilie qui a été rajoutée dedans, enfin...
Alors oui, je parle du crossfit. Je pense que le crossfit est une bonne alternative à condition de le faire techniquement correct. Malheureusement, tu vois parfois des athlètes faire du crossfit en allant trop vite parce qu'il y a le match avec le copain d'à côté et que finalement, tu détériores un peu la qualité du geste technique. L'autre chose, c'est que j'ai été médecin d'équipe de France d'haltérophilie pendant 10 ans, donc je sais ce que c'est que l'haltérophilie. J'en ai pratiqué un peu à ma petite échelle. Pas à bon niveau du tout.
Non, mais c'est que alors ceux qui voient pas ceux qui verront une photo de ton physique, imagine pas que t'as fait l'haltérophilie à une époque. C'est juste comme ça,
mais en fait, comme j'étais avec eux pendant 10 ans, j'ai appris à faire ce qu'ils faisaient parce que ça me permet de les comprendre.
Je comprends.
Et donc c'est le geste de l'haltérophilie est un geste extrêmement technique, extrêmement difficile. Et donc, il ne faut pas croire qu'on va l'apprendre, nous, coureurs, en 5 minutes, parce qu'on risquerait de se blesser. Et je pense qu'il faut être encadré. Si on veut faire du geste d'haltérophilie, il faut être bien encadré. Après, faire de la musculation pour le coureur devient presque obligatoire. Ça permet d'améliorer les performances. Donc ça, on est tous d'accord pour améliorer nos performances. Ça permet de limiter le risque de blessure. Ouais, je pense que c'est un gros handicap chez les coureurs, le risque de blessure. Donc, moi, je ne conçois plus de faire un entraînement, enfin un programme d'entraînement sans séance de musculation, au moins 2-3 séances de musculation. Il suffit de 20 minutes chaque semaine, 20 minutes à chaque séance, donc de 3 fois, donc ça fait 40 minutes. C'est pas énorme avec des gestes simples. Et on peut varier, moi, c'est ce qu'il y a dans PaléoFit. Il y a des séances mixtes où je fais des séances où je parcourir, je m'arrête, je fais 5 minutes de muscu, je parcourir, je fais 5 minutes de muscu. En plus, c'est des séances qui sont assez sympas à passer à plusieurs parce que finalement, même si on a un niveau un petit peu différent, 5 minutes, on ne va pas trop se distancer, on va se retrouver pour faire la musculation, c'est un petit peu plus ludique et ça permet d'améliorer les performances. Alors, ça diminue les courbatures aussi. Hein. Pour les marathoniens, bah, c'est toujours sympa de diminuer les courbatures. En fait, c'est comme ça que je l'ai introduit pour moi initialement, c'est que j'en avais marre d'avoir des courbatures après les marathons et de pouvoir marcher que pendant une semaine. Donc, je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. Donc, j'ai commencé à faire des sauts de grenouille,
Ouais.
des burpees. Je savais même pas que ça s'appelait des burpees à l'époque. Et je me suis rendu compte que sur le marathon d'après, bah, j'ai eu beaucoup moins de courbatures. Et ce qui est pas mal, c'est que ça tombait à peu près au moment où j'ai assisté à la conférence dont je parlais tout à l'heure, où il parlait de la programmation de l'entraînement et où il parlait de l'intérêt de la musculation dans l'entraînement des sportifs d'endurance, de l'intérêt de la polarisation de l'entraînement pour les sportifs d'endurance. Finalement, tout ce que j'ai retranscrit dans PaléoFit après.
Ouais. Et en fait, c'est vrai que le côté ludique, il est intéressant. Alors, on en a parlé dans plusieurs épisodes et ceux qui sont intéressés pourront retrouver l'épisode avec Lilian Dosa, on en parlait, parce qu'il y a une application Endonora où il fait faire des exercices comme ça au milieu des il court, il te fait mettre contre un arbre, contre un banc, tu vois, des trucs comme ça. Et puis on avait parlé avec Anouk Garnier sur la course à obstacles aussi, où on parlait de son entraînement justement, et disait mais tu peux très bien courir, t'arrêter, prendre une branche, la soulever 10 fois, repartir en courant, etc. Alors la méthode prendre la branche, je sais pas si elle est dans ton livre, mais en tout cas dans l'idée, on est un peu dans la même logique d'amusement, de dire on a notre environnement et puis on n'a même pas besoin d'avoir du matériel. Moi il y a un truc, je sais pas si tu l'as dans le livre, mais ce que j'appelle la marche de l'ours, marcher à quatre pattes mais sans poser le genou là, tac tac tac. Moi je le fais au sommet de ma petite montagne face au lever du soleil après avoir couru 20-30 minutes. Je trouve que c'est très amusant en plus. Il y a un côté super amusant.
Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas la marche de l'ours dans le lit parce que, bah, au bout d'un moment, il y a tellement de mouvements que je suis un peu limité. Mais ça peut en faire partie. Et il y a une façon dont j'aime bien le faire aussi, c'est le faire avec des amis. Puis c'est un bloc muscu, c'est l'un qui donne le bloc. Le deuxième, c'est l'autre qui donne l'idée. Le troisième, et puis on varie comme ça. D'ailleurs, finalement, notre organisme est fait pour être surpris de temps en temps, hein, comme il pouvait être surpris à l'ère paléolithique, où il y a, bah, tiens, il y a un lièvre qui passe là, bah, je vais quand même essayer de l'attraper, ou tiens, il y a un prédateur là, faut que je me méfie. Et finalement, on avait des moments de surprise. Et ce qui peut m'arriver d'inclure là-dedans, c'est de le faire à plusieurs, 3, 4, et chacun son tour, ou peu importe dans quel sens, il y en a un qui dit, allez, on sprint sur 10 secondes, ou on sprint jusqu'à la branche là-bas, ou ce qui te permet de mixer encore plus un petit peu toutes ces façons de faire pour bah, surprendre un peu plus ton organisme, s'amuser un peu plus et progresser plus.
Ouais, bon, moi je cours souvent tout seul, mais par contre, essayer de courir après les lapins, j'ai déjà essayé. Moi, j'y arrive pas. Ils courent beaucoup trop vite, hein, ces bestioles, ça. Ou alors, il y a un truc, hein, je sais pas comment ils faisaient, parce que, en plus, j'ai l'impression que ça se fatigue jamais, que ça se cache vite, hein. Je sais pas comment ils faisaient à l'air de paléo pour choper un lapin, mais en tout cas, moi, les courir après les lapins, j'y arrive pas.
Bah, t'as pas la même expérience qu'eux.
Ah oui, il y a l'expérience, c'est vrai. Et puis par rapport à... Puis un invité qui avait croisé un sanglier, lui. Sanglier aussi, ça fait partie de l'entraînement paléo, à la limite, tu dis, je reste. Alors lui, il a discuté avec lui, puis ils sont repartis chacun de leur côté. Mais finalement, face à ces animaux-là, on se dit, on peut avoir notre entraînement, mais bon, moi j'ai essayé les lapins, j'arrive pas à leur courir après. Le sanglier, j'ai jamais croisé, à part dans une course, mais on était tellement nombreux que c'est eux qui ont eu peur. Tu croises des animaux dans tes entraînements, des choses comme ça, tu t'es déjà dit, est-ce que je pourrais les attraper? Moi, comme à l'ère paléo ou...
Alors, je croise des animaux, mais je n'essaie pas de les attraper. Surtout si c'est un sanglier, je ne vais pas essayer de l'attraper. Mais ça m'arrive, oui, parce que j'aime bien aller courir le plus possible dans la nature. J'ai de la nature qui n'est pas loin de la maison. Donc, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi quand tu cours seul de nuit, que ta frontale se perd dans les trucs et dans les bois, que tu as les yeux partout qui se réfléchissent.
Ouais, je me suis fait peur, moi. Et un jour, en courant à la frontale, je me suis fait peur avec mon ombre. Alors, je l'ai raconté dans un épisode, mais c'est vrai. Et c'est véridique, cette histoire. J'étais parti courir à la frontale, et puis à un moment donné, je vois une grande ombre qui apparaît. Mince, c'est moi. Bon, alors. Et j'ai une autre anecdote là-dessus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, et puis moi je me lance dans le vélo aussi, et puis il y en a beaucoup qui aiment bien le Mont Ventoux. Quand j'étais gamin, on avait fait la montée du Mont Ventoux de nuit pour voir le lever du soleil, qui est réputé, paraît-il. Et j'étais tombé face à ces fameuses petites billes qui brillent dans le noir et tout, et c'était des moutons qui étaient en pagaille et tout. Et quand j'étais gamin, ça m'avait marqué cette histoire-là. Donc tu vois, j'ai des souvenirs de ces petits, mes coureurs dans la nuit, moi c'est vrai, après les bruits des oiseaux, etc. C'est aussi un autre truc auquel d'ailleurs on s'est totalement désadapté, hein. C'est-à-dire que moi dans ma rue maintenant, on n'a plus de lumière à partir de minuit le soir jusqu'à 5h du matin. J'ai perdu l'habitude d'avoir une ville noire, sans lumière, etc. Et c'est même perturbant. Alors maintenant, on commence à s'y faire, mais je trouve ça encore perturbant, tu vois. Quel point on s'est vraiment désadapté au monde naturel tel qu'il existait avant qu'on soit là, quoi.
Ah oui, c'est sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, parfois, il m'arrive d'aller courir de nuit, des fois tout seul au milieu des bois. Ça peut être parfois un peu perturbant, et parfois ça ne l'est pas, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai encore le souvenir de quand j'avais couru le 100 miles du sud de France, d'avoir passé sur le. Tu sais, ça passe sur en travers du Canigou, en pleine nuit, où j'ai passé 4-5 heures tout seul avec ma frontale, sans voir une autre frontale, rien, j'ai vu personne. Et dans l'absolu, je me serais dit, quand même, fais attention, mais j'étais en course, j'étais complètement focalisé sur ma course, que finalement, c'est plus perturbant. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu es durant l'effort, quand tu es vraiment ancré dans ton effort, ta vision change et tu retournes à la réalité. Finalement, pourquoi avoir peur? Pourquoi être perturbé? Il n'y a rien de plus naturel.
Bah, je sais pas, c'est peut-être qu'on a peur du loup, en fait. Et ma fille, on a que des histoires avec des méchants loups, tu sais, dans les trucs. Hier encore, on était à un atelier musical, il y avait que des histoires avec des loups, et tous les loups, à la fin, ils mangeaient. Alors, soit ils essayent de manger, soit ils se font chasser par les petits cochons, les moutons se vengent d'eux, tu vois, etc. Mais, enfin, après, c'est peut-être qu'on a eu plein d'histoires qui ont été racontées, parce que dans l'esprit de meute, on dit, il faut pas t'éloigner trop du groupe qui te protège. Tu sais, c'est aussi ça, je disais, l'intelligence sociale qu'on avait. C'est-à-dire, finalement, le fait d'être en groupe, c'est un peu différent et tout. Il y a peut-être ça aussi qui joue, tu sais, peut-être que notre histoire, on nous dit attention, t'éloigne pas trop, ça fait il y a un monstre au bout de la rue.
Oui, probablement. Et d'ailleurs, on peut même le retourner sur le sport. C'est peut-être que maintenant qu'on est dans une société où on est plutôt sédentaire, pour la plupart d'entre nous, courir 10 km devient exceptionnel, alors que ça ne le devrait pas.
Oui, c'est ce que. Alors j'ai fait un réel il y a pas longtemps sur le truc où c'est je m'offusquais d'un truc, c'est que on trouve normal que des gens ils aillent faire leur post-clope et que on trouve totalement anormal que toi si tu veux y aller marcher 10 minutes un quart d'heure parce que ça fait 2 heures que t'es assis sur ta chaise tu sois mal vu. Et il y a plein de gens qui ont réagi, mais c'est vrai. Il y a même des gens qui m'ont dit dans mon règlement intérieur de la boîte j'ai pas le droit de m'éloigner de plus de 10 minutes, tu vois, ou je sais pas comment, etc. Donc faire une pause pour aller marcher, alors que soyons honnêtes. Toi qui es médecin, tu le sais, ça serait nécessaire d'avoir des pauses régulières dans lesquelles on bouge, on détend notre fameux corps, on fait des mouvements, etc. Et on en a parlé en plus dans un épisode de la Minute Perf, on disait faudrait même, il y a des études, il y a des chercheurs qui ont dit faudrait faire ça toutes les 45 minutes, ou enfin bouger comme ça, quoi. C'est hallucinant.
En fait, il faudrait même bouger toutes les 20 minutes. En fait, pour lutter, on en a parlé tout à l'heure, pour ne pas être un sportif sédentaire, c'est-à-dire un sportif, mais qui conserve toutes les... tous les défauts du sédentaire parce qu'il passe sa journée assis. En fait, la sédentarité, c'est le temps passé assis dans la journée, que tu sois à conduire, à manger, à travailler, à regarder la télévision. Et tout ça, ça te désadapte, toujours le même principe de désadaptation. Et en fait, il faudrait, les études montrent que si tu te réactives régulièrement, toutes les 20-30 minutes, et tu stoppes un peu l'arrêt du métabolisme, tu relances un peu les choses. Alors, il y a des chercheurs qui ont eu des super idées là-dessus. En fait, il y a des choses qui ont été testées, c'est tu envoies des sédentaires, enfin sédentaires, on va dire, pas forcément au sens profond du terme, mais au sens peu actif, et tu les fais sprinter dans l'escalier, tu leur fais grimper un ou deux étages, quatre fois, cinq fois dans la journée, et tu améliores leur santé. Juste un étage. Alors effectivement, sortir de ton bureau pour aller sprinter, ça ne se fait pas. Tu peux aller dans l'escalier, personne ne te verra. Par contre, c'est vrai que sortir pour aller fumer une cigarette, ça passe. C'est dommage. Tu pourrais aussi te mettre à faire 10 flexions à côté de ton bureau. Bon, tu passerais pour une andouille. Mais finalement, si tu arrivais à convaincre tes collègues, ça améliorerait la santé de tout le monde. Et ça fait partie des choses que notre société nous force à nous désadapter.
Mais en plus, moi, je pense que si on disait à des patrons, à des chefs que leurs salariés seraient plus efficaces, moins malades, moins de douleurs, parce que faut le dire quand même, les pathologies de dos, ça en fait partie des trucs qui, ça cause je ne sais pas combien d'arrêts et quoi. Et je le dis très, très volontiers parce que moi-même, je sors d'une année où j'ai eu mal et j'ai vraiment détecté une hernie, j'ai une sciatique qui me fait mal depuis je sais pas combien de temps. Enfin, les deux, il y en a une qui frotte sur l'autre, hein, donc c'est logique. Et je m'étais rendu compte parce que même en courant tous les jours, où j'étais quand même trop sédentaire, c'est-à-dire le temps passé sur ma chaise dans ma journée était énorme.
Oui, il faudrait vraiment se lever, mais c'est vrai que parfois on n'a pas le choix, mais il faudrait. Alors moi, c'est pas mal en tant que médecin. Tu vois ton patient, tu es assis, tu te lèves, tu vas l'examiner, tu reviens, tu es assis, tu te relèves. Donc finalement, ce côté-là est plutôt pas mal, même si je passe pas mal de temps assis, j'arrive à me lever régulièrement. Les seuls moments où je suis sédentaire, c'est quand j'écris, parce que pour pas oublier mes idées, j'écris des heures, et puis quand je suis penché dedans, je suis monopolisé par ça. Mais oui, il faudrait. De toute façon, c'est la première chose que je dis à mes patients qui ont mal au dos. Je leur dis, alors les deux choses que je leur dis, c'est soyez super progressifs et ne reprenez pas le sport d'un coup, parce qu'on leur dit il faut bouger. Mais tu les entends la plupart. Ah oui, j'ai été courir trois quarts d'heure, j'ai mal au dos. Bah oui, mais vous n'avez pas l'habitude de courir, donc il faut reprendre beaucoup plus progressivement. Et le deuxième truc, c'est bouger, mais bouger régulièrement. Pas grand chose, vous vous accordez une minute où vous vous levez, vous faites le tour de votre bureau, vous allez à la photocopieuse, mais une minute toutes les demi-heures, ça permet déjà aussi de restimuler l'organisme, de restimuler un petit peu les muscles du maintien, de leur expliquer que bah, ils ont quand même du travail à faire. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas encore dans notre dans le mode de fonctionnement de la plupart des entreprises, mais elles auraient tout à y gagner.
Tiens, est-ce que sur le mouvement, sur le fait de bouger et tout, alors je sais pas comment ça se passait à l'époque paléo, mais est-ce qu'ils avaient des jours de repos, enfin au sens où il y a des jours où ils faisaient rien, hein, tu vois.
Oui,
où...
en fait, ça a été justement dans les études à la chasse à l'épuisement, et ils ont identifié ça. En fait, ils avaient 3-4 jours d'activité un peu intense par semaine, et ils avaient un ou deux jours de repos qui étaient souvent placés après des grosses parties de chasse, en fait. Et c'était assez bien positionné, assez bien réparti finalement. Donc oui, ça a été prouvé dans quelques études.
Ouais, non, c'est drôle parce que finalement ils avaient inventé la séance clé. C'est-à-dire, la séance clé, c'est le jour où je vais chasser, je dois faire 40 bornes, et puis le lendemain, je me repose. Et puis la veille, sûrement, peut-être qu'ils avaient des repos aussi pour se mettre en état d'être en pleine forme le lendemain, quoi. Enfin, on peut imaginer ça, enfin, sans l'avoir étudié scientifiquement, l'avoir intégré en tout cas dans leur mode de vie, quoi.
Ouais, ils avaient même des week-end shocks finalement.
Des week-end shocks. Ouais, puis quand ils avaient vraiment faim, par contre, il y avait vraiment des gros week-end shocks où ils étaient obligés de faire ça. Mais c'est vrai que finalement, on reproduit. Non, mais c'est drôle en fait de regarder comment on essaye de retrouver un petit peu ce certains fonctionnements. En tout cas, on se rend compte à quel point c'est vrai qu'on s'est désadapté. C'est ce que tu disais. On s'est complètement désadapté. Et ce que je trouve intéressant, c'est vrai que dans ton approche, c'est vrai, il y a le côté ludique et il y a le côté de se dire. On peut faire fonctionner tout le corps. Et tu vois, j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec mon beau-père, mais qui aura bientôt 70 ans, tu sais, et il a un kiné qui lui fait des massages. Et je lui dis, mais le kiné, il vous a pas fait faire juste vous lever de votre chaise 10 fois, toutes les 2-3 heures, tu vois, ou un truc comme ça pour juste vous travailler vos muscles, tu vois, un truc dans le genre là. Et je lui dis, ça fait un peu des squats. Mais c'est vrai que finalement, les squats, ça paraît quelque chose qui paraît. Alors je dis pas que c'est anodin, mais finalement, ça fait bouger quand même beaucoup de parties du corps. Et c'est quand même un outil, un exercice qui est très intéressant, mais qu'on peut faire assez facilement à tout âge.
Tout à fait. Alors, oui, c'est un des exemples, hein, se lever d'une chaise en s'aidant des bras ou puis ultérieurement sans s'aider des bras, puis après en faisant des flexions sans la chaise. C'est une progression qui permet de passer de quelqu'un d'un petit peu fatigué à quelqu'un d'un peu plus tonique. Et c'est essentiel. Et il y a des moyens de trouver. Il y a de moyens de trouver des solutions comme ça, et les jeunes kinés maintenant sont formés à ça, ils ont un peu plus cette capacité. Mais le problème, c'est qu'on est toujours aussi dans la même chose du politiquement correct. Je veux pas vexer mon patient, je veux pas le sortir de sa zone de confort parce qu'il va pas aimer que. Mais il faut savoir sortir de sa zone de confort occasionnellement parce que c'est ce qui va pousser l'organisme à devenir meilleur. Si tu restes dans ton train-train, que tu ne sors pas, bah, tu t'en, en gros, pour faire un peu imagé, tu t'encroûtes. Et donc, c'est ça. C'est qu'il faut quand même dire à nos patients et pousser nos patients à parfois sortir de la zone de confort pour que l'organisme perçoive une petite contrainte, perçoive un stress auquel il va s'adapter pour devenir plus fonctionnel. On revient sur le fonctionnel du début. Si tu n'exerces pas de stress, et donc par exemple si tu ne fais que des massages, tu ne vas pas pousser ton organisme à devenir plus fonctionnel et à s'améliorer. Et c'est pour ça que, si tu reviens sur l'entraînement, c'est pour ça que tu as tes séances de fractionné ou tes séances de vitesse ou tes séances de musculation qui font un peu mal, c'est parce que ça te permet d'exercer un certain stress sur ton organisme pour le pousser à s'adapter, à fabriquer les protéines adaptées et à devenir plus fonctionnel. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de médecins aussi qui disent à leurs patients bah, « c'est bien, vous avez fait une station de bus à pied, vous avez promené le chien, c'est une activité physique. » C'est une activité physique, mais ce n'est pas une activité physique suffisamment intense et suffisamment inconfortable pour progresser. Et par contre, il ne faut pas non plus que le stress soit extrême, parce que là, on va avoir l'effet inverse. Donc, ce qu'il faut avec nos patients qui ont des lombalgies, si on revient sur la lombalgie, c'est leur créer un petit stress pour que leur dos s'adapte, mais pas un stress trop important pour que le dos ait mal. Donc, il va falloir doser ça et le faire s'améliorer. Alors, je dis le faire progresser de façon très progressive, parce que sinon, ils vont trop vite. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est des une minute. Je vais faire finalement deux flexions de plus à chaque fois, ou puis après, on va pouvoir augmenter un peu plus. Mais c'est le fait vraiment de... Il faut qu'il y ait une contrainte. Une contrainte pour l'organisme. Il faut qu'il y ait un stress pour l'organisme, sinon il y a des adaptations.
J'avais un autre élément aussi d'ailleurs sur la désadaptation, mais alors, je ne sais pas si c'est la désadaptation, en tout cas de un peu notre évolution de mode de vie. C'est tu en parles, hein, c'est le fait que ben, à l'époque ils étaient dehors aussi, et on a une tendance à être très enfermé quand même. Et tu vois, l'autre jour. Parce que j'ai vu des vidéos, il y a quelques vidéos qui continuent à... Tu sais, moi, je suis sur un bureau debout, et on avait une discussion avec Laure d'un minute père sur le fait d'avoir un tapis de marche, tu sais, sous le bureau debout. Moi, je lui disais, je suis pas pour. Et l'autre jour, j'ai fait plusieurs fois, je vois des vidéos, tu sais, et souvent des gens qui sont dans le conseil, dans le marketing et tout, qui disent, moi, je travaille mieux parce que je marche en faisant mes mails, etc. Et j'ai dit, ouais, mais je pense que... Enfin, moi, mon avis, c'est quand même qu'il manque un truc, c'est à un moment donné, il faut aussi sortir. C'est-à-dire que notre corps... alors il y a la nature et tout, on sait les bénéfices de la nature, mais on a besoin de voir le soleil, on a besoin de voir la luminosité, on a besoin d'être dehors aussi, on est enfermé aussi, on passe beaucoup de temps enfermé finalement.
Alors tout à fait, ça fait partie dans Paléophyte, donc tu as vu, il y a plusieurs lois du sportif Paléophyte, et d'ailleurs dans la nouvelle version, j'ai rajouté des lois du sportif Paléophyte performeur. mais oui, il y a cette notion qu'il faut aller dehors. Il y a beaucoup d'avantages à aller dehors. D'une part, il y a la fabrication de la vitamine D. Alors en ce moment, on n'en fabrique pas quand on va dehors. Mais bon, l'été, au printemps, on fabrique de la vitamine D qui est importante pour notre santé. Il y a pour notre vision aussi. On s'est rendu compte que maintenant, à force d'être devant les écrans, d'être devant des murs en permanence, on a quand même une épidémie de myopie, même si on ne peut pas parler d'épidémie parce que ce n'est pas infectieux. Mais enfin, il y a si tu regardes le nombre d'enfants myopes par rapport à ce que c'était il y a des dizaines d'années, ça a complètement changé. Ensuite, on se rend compte que le vert, que la verdure, que la forêt est un anxiolytique fabuleux. Ensuite, si tu veux courir sur un tapis, bah, tu vas avoir toujours le même appui. Si tu vas courir dehors, tu vas avoir des appuis qui vont varier un peu, sauf si tu restes sur la piste. Et encore, comme tu tournes, ça varie un peu. Mais si tu vas courir sur des chemins, ce que j'appelle donc un environnement paléo, tu vas avoir une variété des appuis, une variété du travail musculaire qui va te rendre plus solide et plus équilibré, qui va renforcer ta proprioception, donc c'est tes capacités à limiter les chutes. Oui, effectivement, il y a quand même énormément d'avantages à aller dehors. En plus, l'air est meilleur, sauf si tu vas courir près du périphérique. Mais il y a quand même des gros avantages à essayer de profiter de ce que j'appelle un environnement paléo, donc dehors, auprès de la nature, dans des espaces verts, si tu en as l'occasion.
Dans tes lois là, parce que tiens, j'ai retrouvé les lois, les fameuses lois. Il y a un élément que je pense qui est important en fait, c'est tu parles de la polarisation. Alors je sais pas si dans la nouvelle version les 10 lois de Paléo tu l'as laissé comme ça. Moi j'ai l'ancienne version. Sur le fait, c'est la règle 3, c'est polariser entre l'endurance basse et puis mettre aussi des moments où tu pars beaucoup avec beaucoup plus d'intensité. Tu peux le repréciser ça parce que c'est important quand même de s'en souvenir parce que on a une tendance des fois à être dans le train-train, de faire un peu la même chose, etc. Et alors que finalement, c'est important d'avoir des intensités variées, mais de pas hésiter à aller dans des hautes intensités.
Alors, en fait, quand tu t'entraînes en général sur la course à pied, souvent c'est un modèle à 5 intensités d'effort qui est choisi. Moi, j'ai privilégié un modèle à 3 intensités d'effort. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle qu'on retrouve dans les études scientifiques. Donc, je me suis basé sur ce que, comme je te dis au départ, moi, je me base sur la science. C'est mon mode de fonctionnement. Et donc, dans les études scientifiques, il y a 3 zones d'entraînement. Il y a la zone 1 qui est la zone de l'endurance, jusqu'à environ 85% de ta fréquence cardiaque maximale. Il y a la zone 2 qui est 85 à 90% de ta fréquence cardiaque maximale et qui est en gros le seuil. Et il y a la zone 3 qui est au-dessus. Donc au-dessus de 90% et qui est la zone à haute intensité, qui est souvent dans les intensités à 3, les répartitions à 5 intensités, il y a un I4 et I5 qui sont dans cette zone. En fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est l'intensité de travail des chasseurs-cueilleurs, c'est majoritairement de l'endurance, 80%. Après beaucoup de haute intensité, soit pour échapper à un prédateur, soit pour faire une chasse, soit pour porter quelque chose, ou soit pour des choses comme ça qui se font à haute intensité. Et cette zone intermédiaire, le seuil, où on n'y laisse pas beaucoup de temps d'entraînement. Donc la polarisation, c'est 80% à basse intensité, mais vraiment à basse intensité. Donc moi, je conseille le cardio-fréquence-mètre pour ne pas se laisser griser, parce que finalement, c'est facile de dériver de la zone 1 vers la zone 2, parce que tu parcours et tu dis « Ah, c'est facile », puis finalement, c'est trop facile, je n'ai pas l'impression de faire grand-chose, donc je vais continuer, je vais aller un peu plus vite parce que je vais progresser mieux. Or, ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas acquérir plus d'adaptation, par contre, tu vas te fatiguer plus. Et la zone 3, elle est difficile, donc tu vas avoir tendance à aller un petit peu en bas de la zone 3 parce que finalement c'est dur, il faut être motivé, surtout si la veille ta séance d'endurance tu l'as fait un petit peu trop élevée, tu étais en zone 2, tu vas créer de la fatigue excessive et finalement cette fatigue va t'empêcher de faire tout le travail que tu veux en zone 3. C'est la zone 3 qui est la plus profitable, mais c'est la zone 3 qui est la plus épuisante. La zone 2 est le rapport bénéfice épuisement est la moins intéressante. Mais par contre, la zone 2, c'est le trou noir de l'entraînement. Comme dit Stephen Saylor, un chercheur texan qui vit en Norvège, c'est le trou noir d'entraînement parce que si je te demande d'aller courir en endurance, tu vas vouloir courir un peu plus vite, tu vas te retrouver en zone 2 parce que finalement, ça te paraissait trop facile. Si je te dis d'aller courir en zone 3, ça te paraît un peu difficile, tu vas finalement dériver un petit peu en zone 2. Donc, c'est le trou noir qui a attiré tout le monde. Or, les études scientifiques montrent que la répartition en polarisant est celle qui est le plus profitable aux performances en endurance. Et autre truc, si tu reviens, pourquoi au paléo ? Parce que c'était leurs activités, mais si tu reviens au paléo, tu te dis que la zone 2, finalement, c'est le seuil, ça consomme énormément de glucides, c'est très désagréable, donc tu n'avais pas envie d'y rester. Ça consomme énormément de glucides, donc pour un chasseur-cueilleur qui n'a pas beaucoup de glucides, c'est se mettre en danger, ça crée de la fatigue. S'il y a un prédateur, tu te mets en danger. Et c'est peut-être pour ça que finalement, dans ma façon de réfléchir, pour ça que c'est une zone 2, le seuil, est si désagréable, c'est que c'est une zone à éviter, mais pas à éliminer, parce que pour un chasseur-cueilleur, c'était une zone dangereuse. Et d'ailleurs, les endocannabinoïdes qui te rendent l'effort agréable quand tu cours longtemps ne sont sécrétés qu'en endurance, donc que en zone 1.
Et oui, en fait, on va dire que le corps avait, par rapport à cette adaptation, c'est de dire, la zone 1, tu es en sécurité, tu peux rester longtemps dans cette zone, super longtemps, et tu vas pouvoir nourrir et tout, et l'autre, tu vas pouvoir fuir, mais au milieu, on va éviter, donc on t'envoie des messages de douleur en disant, fuis vite cette zone-là. Et tu parlais du chercheur qui vit en Norvège, et on peut le dire, c'est lui qui a fait beaucoup d'études, mais pas que sur l'entraînement polarisé, et que ceux qui se posent des questions, ils peuvent aussi regarder, il y a des études qui ont été faites sur Martin Fourcade, j'avais vu qui passait du temps où on était très doté, même jusqu'à 86% de son entraînement d'endurance par moment, sur certaines périodes de la saison.
C'est énorme. Mais tous les marathoniens passent beaucoup de temps en endurance pure. Et c'est pour ça que, eux, ils savent le faire, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je le conseille, mais c'est pour ça aussi que je conseille à la plupart des coureurs, ou même des triathlètes, peu importe, de vraiment utiliser un cardio-fréquence-mètre parce que ça nous permet d'avoir, soit on est capable de le savoir, mais ça nous permet d'avoir une espèce d'alarme, de dire non, attends, voilà, ça ne sert à rien, ne dérive pas, soit un peu, c'est un garde-fou en fait, si tu veux.
Et la sensation, c'est pas suffisant parce qu'on peut se faire avoir par la sensation, se trouver facile et puis finalement se retrouver en zone 2 sans s'en rendre compte.
Oui, ça arrive, mais pas les coureurs expérimentés, non, mais la plupart des coureurs, quand tu discutes avec la plupart des coureurs, ils vont dériver en zone 2.
Donc, ça surveiller. Donc, on rappelle hein, de regarder ça. Et puis, un autre élément qui est important, c'est que tu parles de l'entraînement de force, qui est un élément parce que peut-être d'ailleurs ça fait peur. Tout à l'heure, on parlait de l'haltérophilie, on parlait de la musculation, etc. Il y a des légendes aussi sur la force et tout, chez les femmes qui veulent pas faire de force parce que y a ces fameux trucs, attention, tu vas prendre des gros muscles. Alors que. Mais en fait, c'est important de travailler sur la force, sur cette capacité à soulever des charges lourdes.
Alors. Première chose, c'est que il y a des interférences entre l'entraînement en endurance et l'entraînement à la force, des interférences biochimiques. Mm. D'accord. Et donc, si tu te fais une séance de course à pied ou de vélo assez intense ou prolongée, tu vas sécréter des molécules qui vont bloquer les molécules qui te permettent de fabriquer du muscle. Donc, ta séance de musculation que tu fais juste derrière, tu vas prendre moins de muscle. C'est pour ça que les bodybuilders, les haltérophiles n'aiment pas trop courir, c'est que finalement, ils ont sensation de ne pas prendre trop de muscles.
Ouais, donc, sauf quand il faut sécher.
Pour nous, c'est la même chose. On peut exploiter ce phénomène-là. Si tu rapproches ta séance d'endurance de ta séance de musculation, tu vas créer des adaptations neuromusculaires, donc tu vas gagner en force, mais pas autant en muscles. Donc voilà, ça, on peut le limiter. Il faut que les séances soient rapprochées. Par contre, faire de la musculation, ça a plusieurs avantages. Ça améliore ton économie de course. C'est-à-dire, tu vas être capable de courir à la même vitesse, à la même intensité, mais en consommant moins d'énergie, moins d'oxygène. Donc ça, c'est un bénéfice. Si je te dis que sur ton marathon que tu vas faire à 12 km/h, tu vas être capable d'économiser moins d'énergie, ça veut dire que tu es capable de le faire soit plus long, c'est plus un marathon, mais ou alors plus vite.
Oui, plus vite.
Ça, c'est intéressant. Deuxième chose, c'est que tu peux bénéficier d'une baisse du risque de blessure. D'accord, parce que tes muscles sont plus solides, parce que ils sont mieux coordonnés et que tu as une meilleure fluidité du geste. Donc ça, c'est très important aussi. Et enfin, il a été prouvé que tu limites les courbatures. Donc ça, c'est les trois principaux avantages que tu peux avoir à faire de la musculation avec quasiment aucun inconvénient.
Il y a un quasiment. Alors moi, tu sais, moi, quand tu me dis quasiment, faut pas le mettre. Hein. C'est Stephen King, il dit faut pas mettre les adverbes. Donc
quasiment, c'est si tu le fais n'importe comment, t'as un risque de blessure. C'est des choses comme ça. Mais si tu le fais de façon sérieuse, voilà, t'as pas d'inconvénient.
Est-ce que tu penses que, parce que moi, nous, on a un concept de vieillir galopant, de bien vieillir, tu sais, bouger, bien vieillir et tout. J'ai le sentiment que l'entraînement paléophyte, enfin, la globalité, c'est aussi un élément qui permet de renforcer, on va dire, structurellement les os, garder de la force, éviter de perdre du muscle. Et donc, finalement, mieux vieillir, avoir, tu vois, un corps plus fort pour mieux vieillir et moins perdre, en fait.
Alors, un des gros problèmes du vieillissement, c'est la sarcopénie liée à l'âge, c'est-à-dire que c'est la fonte de muscles liée à l'âge. Et contre ça, il n'y a pas de solution autre que de bien manger, donc de répartir les protéines en 4 fois par jour, 3 ou 4 fois par jour, et pas donc d'avoir un petit déj qui soit protéiné, et qui soit pas juste une baguette avec de la confiture et un café. Et ça suppose aussi de faire de la musculation régulièrement. Par ailleurs, effectivement, la musculation est un protecteur contre les arthroses et autres maladies articulaires. À mon sens, à partir du moment où tu entres dans la catégorie senior, tu as vraiment intérêt à incorporer encore plus de musculation dans ton entraînement, mais ce qui est bien, c'est de le faire bien en amont, parce que finalement, la masse musculaire que tu auras construite avant te permettra de tenir plus longtemps et que c'est plus facile à entretenir. Et autre chose, c'est qu'on connaît la mémoire du muscle, on sait que si tu prends une personne qui a fait de la musculation une bonne partie de sa vie, qui n'en fait plus, et que tu leur mets un programme de musculation, elle va reprendre plus rapidement de la masse musculaire qu'une personne qui n'en a jamais fait. Donc, en fait, c'est un plaidoyer en faveur de la musculation quand on est senior, mais aussi avant, en fait, en permanence, quoi.
Ouais, bon, pour moi, c'est trop tard. Je suis déjà passé dans l'âge master. mais écoute, c'est mon boulot.
J'y suis aussi, mais je continue.
Ouais, mais toi, t'as commencé beaucoup plus jeune et tout. Et puis, tout à l'heure, je rigolais parce que quand tu disais, ouais, des athlètes de niveau, t'es pas très haut niveau, etc. Rappelle-nous ton temps sur Ironman.
Mon record, c'est 10,07.
10,07. Ce qui est intéressant, c'est que tu précises dans le bouquin, c'est que tu dis que grâce à l'entraînement paléofit, parce que tout à l'heure, tu parlais du marathon, des courbatures, c'est que t'as gagné beaucoup de temps sur ton entraînement aussi par ces méthodes d'entraînement.
Oui, alors je sens vraiment la différence, c'est que alors je le constate sur Ironman, donc sur le marathon en fin d'Ironman où je ralentis plus. Maintenant, où j'arrive à courir à vitesse constante tout du long, je le constate sur Ultra Trail où finalement je ralentis bien moins que mes concurrents et c'est assez grisant sur la fin de rattraper les
Ouais,
autres.
je veux bien croire.
Et sur marathon, c'est la même chose aussi. Sur le dernier marathon que j'ai fait aussi, j'ai pas eu de courbature, j'étais capable. J'ai percuté le mur du marathon où je suis passé de. J'étais à 14 km/h pour passer à 13,8. Donc,
Ça va. Il est léger ton mur, toi. Hein?
voilà.
Ou alors t'es
Donc,
très résistant. Enfin, en tout cas, le mur, t'as pas beaucoup freiné, quoi.
voilà. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, comme le mur du marathon, c'est pas qu'une baisse du glycogène musculaire, c'est ça, mais c'est aussi la casse des fibres musculaires. Et si tu les as cassées en amont en faisant de la musculation, ben, ils ne casseront pas pendant le marathon. Et finalement, tu ne vas pas être handicapé par ça lors de ton marathon. Donc, c'est quelque chose qui permet de ne pas ralentir en fin de course. Moi, j'ai un ami que j'ai coaché qui devait faire les Templiers et je lui avais programmé des toutes petites, enfin, de la séance de musculation tout le long. Et à la fin, je lui avais dit, bon, maintenant, tu vas faire un petit peu ça, mes petits blocs secrets qui sont des Tabata saut de grenouille. Tu vas le faire là et puis tu t'arrêtes 10 jours avant ou tu réduis un peu. Et quand j'ai rediscuté après avec lui, il me dit, dans ma tête, quand tu me racontais ça, je me disais, mais oui, cause toujours, que si tu veux, je ne vais pas te croire. Je lui ai dit, tu vas voir, tu vas rattraper tout le monde à la fin. Il me dit, oui, mais il n'y croyait pas. Et après, il vient me voir, il me dit, mais je ne croyais pas à ce que tu m'as dit. Mais ça s'est produit. À la fin, j'arrivais à courir, donc sur la grande course des Templiers, donc le 70 km, et je rattrapais plein de monde. Je rattrapais plein de monde parce qu'eux n'arrivaient plus à courir. Donc ça, c'est aussi un avantage et c'est un confort. C'est grisant quand tu es en course, c'est confortable de ne pas avoir mal aux jambes. Donc, c'est sûr que moi, je ne quitterai pas la musculation dans ma programmation de l'entraînement.
Et il y a un avantage aussi à ta méthode, c'est que finalement ça coûte zéro. Enfin, t'as pas besoin de matériel particulier, enfin, on peut le dire, mis à part si tu veux rajouter un peu de poids ou tu peux avoir des haltères, des trucs comme ça en plus, mais tu peux commencer sans matériel complémentaire que ce qu'on a déjà sous la main.
Alors, tu le fais à la maison ou dehors, sans temps supplémentaire pour aller à une salle, sans matériel supplémentaire, donc ça coûte zéro. Alors effectivement, si tu es un athlète très entraîné, tu auras un bénéfice à aller en salle à soulever du lourd, mais là, il faut vraiment te faire encadrer. Mais à la maison, enfin, maison ou dehors, tu peux aller faire des flexions, des fentes, des sauts de grenouille, des pompes, du gainage dynamique, des sauts dans les marches, des sauts en montant les marches. Enfin, il y a plein de choses. Donc, dans ma méthode paléofit, je n'utilise que du matériel accessible. Je ne te demande pas, tu n'as pas besoin d'aller soulever des branches. Si tu en as et que tu veux t'amuser à soulever des branches, c'est très bien, mais tu n'es pas obligé non plus d'aller ailleurs. C'est quelque chose qui reste très accessible. Et moi, mon principe, c'était de rester très accessible à tout le monde et sans créer de risque de blessure. Et je veux que tout le monde puisse le faire.
Et donc, t'en as combien d'exercices dans ton livre? Je sais pas compter, moi, mais toi, tu le sais, toi.
Je sais pas. Des exercices, je sais pas, mais il y a une centaine de séances, je crois.
Ouais, il y a des trucs, hein. Y a vraiment. Alors, il y a des trucs que tout le monde connaît, hein. La chaise contre un mur, les squats, les fentes.
Oui, bah les gestes, ils sont tous connus. Les sauts de grenouille, les chaises, les fentes marchées, les fentes sur une jambe. Les gestes, ils sont tous connus, mais je n'ai pas inventé de nouveaux gestes. La façon dont j'ai travaillé, c'est que, en fait, initialement, quand j'ai fait de la muscu, je suis un coureur, j'aime courir dans la nature. M'arrêter pour faire de la musculation, ça ne m'amuse pas.
Ouais.
Et donc, il a fallu que je ruse avec moi-même pour trouver un moyen de m'amuser. Donc, j'ai fait des séances avec des thèmes. J'ai essayé de rendre mes séances ludiques. Alors, si tu regardes dans le lit, tu as des séances qui s'appellent 42-195, où finalement, tu fais 42 mouvements d'un autre, 19 d'un autre, 5 d'un autre, pour essayer que ça représente quelque chose pour moi et ce qui me permet de me motiver pour faire la séance. Mais le truc que j'ai essayé de faire, c'est de rendre ces séances ludiques et surtout de faire un travail pour la plupart qui est assez global, ne pas délaisser les chaînes. Souvent, on a tendance à travailler sur les chaînes antérieures, donc on va aller travailler les pompes, mais on va délaisser donc on va travailler l'avant du corps sur les pompes, mais on va délaisser un peu l'arrière. Et j'ai essayé d'équilibrer un peu tout ça. On va aller travailler les flexions, mais on ne travaille pas on ne travaille pas les ischio-jambiers ou on travaille moins les fesses. Donc j'ai essayé de vraiment de construire ça de façon à ce que ça soit efficace, rapide, accessible à tout le monde avec des gestes simples.
D'ailleurs, tiens, tu viens de parler des fesses, mais ça, c'est un truc. J'ai un ostéo, quand j'ai mes problèmes de sciatique, qui est formé méthode McKenzie et compagnie, tu sais, et qui m'ont, et donc qui est assez spécialiste quand même de tous ces trucs-là, et qui me dit, mais il me dit, comme tous les coureurs, vous n'avez pas de fessiers. Il me dit, vous manquez de muscles fessiers, il me dit, vous manquez de puissance. Alors, je ne sais pas si c'est un constat qu'on peut faire ou pas, qui fait peut-être qu'on ne les travaille pas assez. Est-ce que finalement, notre mode de vie, je sais pas, ou peut-être notre mode d'entraînement ou quoi que ce soit, ou est-ce que finalement c'est moi qui suis comme ça? Mais lui, il avait l'air de dire que c'était un peu général cette histoire-là, que on manquait un peu de puissance dans les fessiers quand même.
Je ne l'ai pas remarqué, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le muscle que tu vas travailler le plus facilement. Mmh. Enfin, pas facilement, on va dire, le plus intuitivement.
Ouais.
Et c'est vrai que si je ne me concentre pas pour essayer de le travailler un peu, je ne le fais pas beaucoup. Donc, j'essaye vraiment d'y dédier des exercices.
Bon. T'en as un exemple? Comme ça, comme...
Alors, t'as le classique, le pont sur les épaules où tu lèves les fesses.
Ouais.
Ouais. Alors, moi, je l'ai modifié un petit peu. Du coup, mais je ne suis pas le seul. Hein. Je le fais sur un pied.
Ouais.
Et je lève les fesses, je maintiens un peu là. Et puis après, je l'ai encore remodifié où je le fais sur un pied, mais le pied surélevé, donc sur un tabouret. Mm. Et j'alterne des séries comme ça. Voilà, tu as les fentes sur une jambe aussi qui font un peu travailler ça. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a pas, il y a les soulevés de terre sur une jambe aussi qui te font un peu travailler ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... pas des exercices aussi classiques qu'on a pour le reste du corps. Si tu regardes, la plupart des gens, ils vont faire les pompes ou les choses comme ça, quoi.
Bah oui, c'est ça. Puis on a tendance à faire des pompes et puis on oublie de faire des tractions, parce qu'il faudrait faire des pompes et des tractions, finalement, pour équilibrer un petit peu l'ensemble.
Tout à fait. Ou alors tu fais des dips, tu mets les bras un petit peu en arrière et puis tu soulèves sur un tabouret, mais c'est vrai qu'on a facilement tendance à délaisser l'arrière du la chaîne post les chaînes postérieures au profit des chaînes antérieures, parce qu'en plus c'est ce qui te rend beau sur la plage.
C'est ce que j'allais te dire, parce que dans ton livre tu dis que les paléos, je sais plus leur nom qu'ils ont dans ton livre, tu expliques la journée, ils avaient quand même des abdos super puissants. Alors je sais pas s'ils étaient découpés, taillés, etc. à l'époque, comment c'était, mais en tout cas au niveau des abdos, ils avaient quand même ils étaient forts, quoi.
Oui, mais ils étaient forts globalement.
Ouais.
Ils étaient forts globalement.
Et ils faisaient pas de crunch?
Non, ils faisaient pas de crunch. Mais même les femmes étaient fortes, parce que non, tout leur travail aussi était aussi intense. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, les femmes qui veulent pas prendre de poids, bah oui, mais en fait, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Mais elles étaient fortes. Et de toute façon, tu prends pas de poids. Si tu prends de la muscle, il faut savoir quand même que si tu perds un peu de gras, le gras est beaucoup plus lourd que le muscle. Le muscle, c'est 900 grammes pour un litre. Et, non, c'est l'inverse d'ailleurs. C'est le gras, c'est 900 grammes pour un litre. Et le muscle, c'est 1,1 kilo pour un litre. Donc en fait, tu peux t'affiner et devenir plus lourd.
Oui, c'est ce que les gens. Bah, ouais, l'image traditionnelle, c'est qu'on dit que la graisse prend plus de place que le muscle. Et en plus, c'est plus joli, quoi.
Oui.
Voilà. Bon, de là, après, on va pas demander si Zorgaïra avait des abdos dessinés, hein, j'en sais rien, parce que il y a des histoires de graisse, etc., de masse graisseuse, etc., qui, eux, il y avait une histoire de survie aussi dans leur mode de vie. C'est-à-dire que nous, on a quand même un comparatif, tu disais, beau sur la plage, etc., on a ce domaine esthétique. Eux, c'était quand même vital, cette histoire d'être en pleine forme, d'être capable de courir, d'être capable de bouger, d'aller chercher à manger et tout. C'était aussi le fait de pouvoir vivre, tout simplement, quoi. On n'était pas du tout dans nos objectifs, quoi.
Mais en fait, finalement, la différence, c'est que nous, tu n'as pas besoin d'être entraîné pour vivre. Eux, ils avaient besoin d'être entraînés pour vivre et d'être actifs pour vivre. Et que finalement, comme on en parlait au début, s'ils ne s'entraînaient pas, sans que ça soit un entraînement dédié, hein, mais s'ils ne s'exerçaient pas tous les jours régulièrement et qu'ils n'étaient pas performants, il y a peu de chances qu'ils aient vécu longtemps. Donc finalement, par la force des choses, ne restaient que les gens actifs. Alors, bien sûr, il y a de la solidarité, puisqu'on vivait en groupe, donc il y avait une certaine solidarité. Mais quelqu'un qui n'était pas actif, qui n'était pas performant, était probablement bien plus en danger.
On sait l'espérance de vie, je sais pas si tu le mets dans ton... comme il vivait longtemps.
Alors, en fait, c'est difficile de juger de l'espérance de vie déjà qu'ils avaient, mais ce qu'on suppose, c'est que ils avaient une espérance de vie en bonne santé plus longue, ils avaient moins de risques de maladie, ils pouvaient tenir longtemps, mais par contre, il y avait beaucoup plus d'accidents aigus qui étaient potentiellement mortels.
Et oui,
Et il
c'est
y avait
ça en
moins
fait.
de maladies chroniques, en fait. Si tu veux, il y avait probablement une mortalité aiguë beaucoup plus aiguë, jeune, mais une mortalité chronique de maladies chroniques beaucoup plus faible.
D'ailleurs, quand on regarde les courbes de natalité, on se rend compte que c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants à l'époque, mais qu'il y en avait beaucoup qui passaient pas les 20 ans, que pour une famille, perdre des enfants était quelque chose qui était très, très
Classique.
commun. Mais il n'y a pas très longtemps encore, parce que, tu sais, moi, j'ai regardé l'arbre généalogique de ma famille, et le nombre de naissances dans la famille, et le nombre de pertes d'enfants, il y a un siècle et quelques, était énorme, hein. On ne se rend pas compte, hein. Maintenant, c'est relativement rare. Et c'est vrai que ce qui nous paraît bénin maintenant, parce qu'on a l'hôpital, les médicaments, etc., mais quand je dis bénin, c'est se casser une jambe, enfin, qui maintenant semble bénin, à l'époque, ne l'était pas tant que ça, même avoir mal aux dents ou quoi que ce soit. Bon, ils n'avaient pas de sucre, par contre, hein. Les bonbons, les trucs comme ça, c'est un truc,
Donc en fait c'est ça, en fait c'est les maladies chroniques qu'ils n'avaient pas, ce sont les maladies de désadaptation, soit de nourriture malsaine, soit de manque d'exercice, et ils n'avaient pas ces maladies chroniques qui sont en fait des maladies de civilisation ou de désadaptation. Mais par contre, effectivement, ils étaient beaucoup plus sujets à des pathologies aiguës, une fracture, une infection, parce que ça pouvait arriver aussi, ou qui était beaucoup plus grave pour eux qu'elle ne l'est pour nous.
Bon, alors maintenant, il y a quand même une question que je t'ai pas posée. C'est vrai que tout à l'heure, tu l'as dit un petit peu, tu as sorti la deuxième version du livre. C'est quoi la différence entre les deux versions, en fait? T'as ajouté
Alors,
quoi dedans?
il y a 70 pages de plus dans la deuxième version. En fait, j'ai rajouté des nouvelles séances, de musculation qui sont... je t'ai dit tout à l'heure qu'il était plus intéressant pour des sportifs très entraînés d'aller en salle de musculation pour faire de la muscu lourde. Donc là, j'ai fait des séances de musculation au poids de corps, mais en essayant d'approcher les sensations de la muscu lourde pour rester à la maison, parce que moi, je préfère rester à la maison ou aller dehors faire ça. Donc il y a toutes ces nouvelles séances. Il y a quelques nouvelles séances tirées de la science pour l'entraînement, des séances d'entraînement de fractionnés. Donc on parlait du Texan tout à l'heure, Stephen Saylor, donc il y a une de ses séances dedans. Il y a quelques séances de Norvégiens, tu sais qu'il y a des Norvégiens qui retiennent bien en ce moment.
Ah, ils adorent ça, non, mais c'est vrai. Après, et tu
Ils
sais
ont
que tu
beaucoup
me
de
dis,
publications très intéressantes.
ouais, et c'est pas étonnant parce que quand tu regardes toutes les publications scientifiques, et tu me disais le Texan qui est en Norvège, etc. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait, les études sur le ski, on parlait tout à l'heure de Martin Fourcade, mais c'est les études norvégiennes la plupart du temps qui regardent aussi ce qui se passe avec. Il y a des Espagnols aussi qui se sont mis dedans, il y a un peu quelques Suisses, etc., qui ont rajouté leur petite dose, mais c'est pas étonnant que quelques années plus tard. Ils performent aussi bien parce que finalement, ça fait des années qu'ils étudient ça aussi. Ils ont vraiment étudié ces sciences-là, quoi.
Alors, tous ces Norvégiens-là, il y a Ronstadt, il y a Seller, font partie effectivement des chercheurs que je cite souvent parce qu'ils publient énormément d'études très intéressantes, donc sur la polarisation d'entraînement, sur la musculation, sur les séances. Ils publient des séances qui sont particulièrement intéressantes, que j'ai testées, donc je les lis, je les teste. J'ai un peu peur avant de les tester quand je les vois, ou parfois très peur avant de les tester. Et après, je me dis, waouh! Voilà, j'ai rajouté quelques séances comme ça. J'ai répondu à des interrogations qu'on me posait. Donc, j'ai éclairci certains chapitres dans le livre. Notamment la raison pour laquelle j'utilise cette répartition en trois zones d'intensité d'effort et pas cinq comme la plupart. Et puis j'ai élargi tout le chapitre sur la performance. J'ai allongé tout le chapitre sur la performance pour le coureur à pied, mais pour les autres sportifs d'endurance aussi. Même si la course à pied reste quand même la base du paléophyte, parce que finalement on est fait pour courir et on est fait par la course, on est fait par et pour la course à pied. J'ai approfondi ce chapitre sur la performance en endurance. Et ce qui fait que voilà, donc pourquoi on a retravaillé ce livre et comment je l'ai retravaillé.
Et au paléo, ils n'avaient pas de vélo. Mais
non,
toi qui es
s'en
triathlète.
Approche.
Ouais, mais toi qui es triathlète, le paléo, tu disais, bon, tu parles vraiment de la course à pied, en effet, pour courir. Mais ça s'applique aussi, finalement, j'allais dire pas à tous les sports, mais j'ai envie de dire si un peu, parce que tu as aussi beaucoup de choses autour des sauts, donc la proprioception, la pliométrie, tous ces trucs-là. Donc finalement, les bénéfices qu'on en retire globalement, on peut l'appliquer à plein de sports, j'ai envie de dire.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je me suis focalisé sur les sports d'endurance, donc le vélo aussi. De toute façon, le vélo en profite. Hein. Tous les chercheurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, les Norvégiens, ils travaillent sur le vélo aussi. Ils travaillent sur ce qu'ils font sur le vélo. La natation, il y a des études aussi. Tout le monde en profite. Et de toute façon, comme c'est une façon de faire qui est en harmonie avec notre organisme et avec la façon dont notre organisme est construit, finalement, ça ne fait que renforcer la fonctionnalité de notre organisme pour tout. Et en fait, on se construit. Si tu veux te construire pour devenir un bon coureur, il faut d'abord que tu te construises pour devenir un bon athlète. Après, tu te spécifies un peu dans la course à pied, mais tu es un athlète global. Et après, il ne te reste plus qu'à organiser ça selon les autres sports. Alors, c'est vrai que je me suis un peu moins focalisé sur la musculation pure, le culturisme ou des choses comme ça qui sont un peu moins mon dada. Et puis, de toute façon, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, donc je me limite à celui qui m'intéresse. Mais oui, on peut en tirer profit, un footballeur en tirera profit, un tennisman en tirera profit, un judoka en tirera profit. C'est bien sûr accessible à tout le monde, mais particulièrement intéressant pour les sportifs d'endurance, et donc coureurs, mais aussi les autres. Le cycliste va en profiter également, le skieur de fond, parce qu'il y a des études dessus, même s'il y a beaucoup moins de skieurs de fond en France, mais les Norvégiens publient pas mal sur les skieurs de fond. Oui, ça, tout le monde peut en profiter.
Eh bien, écoute, comme ça, tout le monde sait qu'il faut le faire. J'ai quand même un petit conseil, parce que des fois, on peut trouver que c'est un peu rébarbatif, certains exercices. Alors, tu dis que tu as essayé de mettre du jeu, mais j'ai bien compris que c'était pas ton dada aussi au départ de faire certains exercices-là, que tu as essayé de rendre tout ça ludique. Mais quand même, tu auras un conseil pour ceux qui, tu vois, à qui on dit, je sais qu'il faut faire du gainage, qu'il faut faire du renfort, qu'il faut faire de la muscu, qu'il faudrait faire ça. Je sais que ça, il faudrait que je le fasse, mais j'ai du mal à le faire. Tu leur dis
alors,
quoi?
Je dirais, il y a beaucoup de profits à le faire, peu d'inconvénients. On peut faire 4 fois 10 minutes par semaine, c'est pas beaucoup. Si on fait du gainage en faisant la planche, on va s'enquiquiner.
Ah, ça.
Alors, il faut trouver des séances ludiques, comme il y a dans mon livre, tiens, ça tombe bien.
Ben, ça tombe bien. Hein.
Et par contre, effectivement, c'est difficile, ça c'est le reproche que j'ai aussi, c'est effectivement, si je vous dis d'aller faire 20 minutes de musculation là, c'est difficile. Mais par contre, demandez à un haltérophile d'aller courir 20 minutes. Il va vous dire quoi? Il va vous dire que c'est difficile, c'est simplement parce que vous n'en avez pas l'habitude. Et tous les athlètes que j'ai coachés et tous les athlètes à qui j'ai conseillé de faire ça ont tous revenu conquis et ont tous dit que ça avait vraiment amélioré leur performance. Là, je discutais avec un athlète que je coach et il me disait, mais je me sens bien mieux dans ma vie, je me sens plus costaud quand je cours, franchement, je sens la différence.
Bah écoute, si les gens n'ont pas envie d'acheter, moi je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. On va mettre un lien quand même. Et puis, on va le dire. Bon, là, on n'a pas parlé de nutrition. Parce que là, je t'avais invité dans Sport et Nutrition. On avait parlé de ton livre avec les recettes. On avait reparlé de plein de notions sur la nutrition. Parce que. Et puis, tu avais parlé tout à l'heure aussi de ton entraînement. Comment il s'appelait déjà le livre où tu parlais de l'entraînement glycogène et tout, là?
Alors, ça, c'est Ultra Performance.
Voilà, Ultra Performance, qui est aussi une mine d'informations pour que ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Il y a vraiment tout un tas d'éléments avec les types d'entraînement et tu parles vraiment de toutes ces notions-là. Donc, on n'en a pas parlé parce qu'on en a parlé beaucoup dans Sport et Nutrition. On avait parlé avec toutes tes recettes. Moi, il y a des recettes, des fois, je vais voir dedans, tu sais, je vérifie, je regarde les trucs. J'en ai testé pas mal hein, de tes recettes que tu avais faites dedans. Donc, je mettrai tous les liens pour réécouter l'autre épisode. Je mettrai les liens aussi vers tes ouvrages. On peut te retrouver où en ligne? T'as un site ou t'as un blog ou... Entre vous.
Alors j'ai le blog sur le site de mon éditeur, mais j'avoue qu'en ce moment j'ai pas mis grand chose puisque je travaille sur un prochain livre.
Ah.
Donc je suis un peu, c'est-à-dire que ma vie peut pas se dédoubler. Il faut que je travaille, que je m'occupe de la famille, que je m'entraîne et que j'écrive les livres. Je publie des séances sur ma page Facebook régulièrement. Enfin, régulièrement, je le faisais, là je l'ai fait un peu moins, mais je vais m'y remettre parce que je me rends compte qu'il y a quand même certains qui aiment bien. Et puis je l'ai publié aussi sur Instagram, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis pas énormément sur les réseaux parce que je suis vraiment dans l'écriture.
Et tu prépares un truc sportivement, ta saison, tu sais ce que tu vas faire, ou tu peux nous dévoiler des trucs, ou...
Normalement, je vais faire le marathon des sables que j'ai pas pu faire l'année dernière parce que je me suis blessé. Je suis ensuite sur le Half Ironman, le Streamman dans le Nord. Et probablement un Ironman en fin de saison. Et je voudrais faire un swimrun avec mon neveu aussi, pour partager un moment ensemble, au printemps ou au début de l'été, quelque chose comme ça.
Un chouette projet. Ouais, c'est sympa le swimrun. Moi, je nage comme une brique, mais c'est sympa. Petite pensée à l'ami Hermano avec qui on a fait ce swimrun-là, qui prépare lui sa traversée de la France en swimrun, enfin en course et nage, en alternant un petit peu les trucs. Il se met des grosses séances en ce moment, mais faudrait que je le réinvite un jour, Hermano. Mais en tout cas, et je sais qu'il fait aussi du renforcement, etc. Tout ça, je lui fais un petit clin d'œil. Bon, écoute, Fabrice, c'était un plaisir, comme toujours. Tellement intéressant de discuter de ces sujets-là, d'en découvrir plus, et puis vraiment on progresse, et puis c'est en plus c'est expliqué très simplement dans ton livre, l'histoire de la petite histoire là de ton couple paléo là au début, précise bien un petit peu leur mode de vie, tout ça, il y a plein d'explications, c'est vraiment très intéressant. Et écoute, je sais pas sur quel sujet ton prochain livre, hein, mais tu prévois ça pour quand?
J'ai bien avancé sur les textes, il m'en reste quelques chapitres à écrire, après je voudrais les recoordonner. Travailler un peu sur la forme, mais pour les recoordonner, j'ai un peu encore l'imagerie, enfin les graphismes à rajouter. Peut-être fin d'année. Mais il me demande beaucoup de travail celui-là. Il est très riche en bibliographie.
Écoute, tu sais quoi, quand il sort, envoie un petit message et je te réinviterai pour parler de tout ça. Enfin, sauf si ça parle pas de sport, hein. ça parlera de sport.
Ah si, ça parle de sport.
Ah ouais, non, mais j'ai eu peur, je me suis dit, ça se trouve, ça va parler d'un autre sujet. Mais non, bon, c'est bon. Mais écoute, Fabrice, en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec nous, c'était vraiment toujours aussi sympa. Je mets bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode, parce que le lien vers sur le site de ton éditeur, le lien vers les livres, etc., l'ancien épisode de Sport Nutrition dont je parlais, les autres épisodes dont j'ai parlé aussi, avec d'autres invités, on avait parlé un petit peu de ces logiques de mouvement, de bouger aussi un peu différemment. C'est un peu le côté différent et tout qui était intéressant. Et puis, écoute, je te souhaite une belle fin d'écriture, des beaux projets sportifs en tout cas, et je te dis à très bientôt. Et puis nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité parce que moi-même, je ne le sais pas. Mais en tout cas, on continuera à bouger. Ciao, ciao.
Merci.